Interview BO par Benoît Bazirico.
Je suis avec Christelle Alves-Mera, réalisatrice du film Alma Viva, présenté à la Semaine de la Critique à Cannes, et son compositeur Amin Bouafa. Nous sommes dans ce film Alma Viva avec la petite Salomé, qui retrouve son village familial, niché au creux des montagnes portugaises, le temps des vacances. Elle est hantée par l'esprit de sa grand-mère qui disparaît dans le film, considérée d'ailleurs par le village comme une sorcière. Déjà au départ, Christelle Alves-Mera, en tant que réalisatrice, à quel moment la musique intervient dans le processus de travail et à quel moment vous avez fait appel à Amine?
Alors c'est vrai que le projet, il a commencé il y a très longtemps, donc justement, juste avant de commencer cet entretien, je m'interrogeais, mais c'est vrai qu'Amine est arrivée, je m'interrogeais sur il y a combien de temps, la première fois que je t'ai contactée. Donc apparemment, c'était il y a 3 ans, donc c'était au moment où le scénario était déjà bien avancé, que les financements étaient déjà presque tous en place. On a commencé en tout cas à travailler ensemble en amont du tournage, parce que dans ce film, il y a de la musique au plateau. L'héroïne chante, il y a des musiciens dans le village qu'on filme en train de jouer. Et donc voilà, j'ai commencé à discuter avec Amine assez tôt en fait dans le processus. Et ça a été un long parcours jusqu'à la composition, ensuite à l'image, une fois qu'on est revenu de tournage.
Le fait que les musiciens soient dans le film présents, c'était une question qu'on s'est posée pendant les séances de travail. Cette collaboration a quelque part eu des incidences même sur la mise en scène et je suis très, très heureux que les réflexions sur la musique puissent... C'est vraiment un travail de bout en bout, depuis le scénario jusqu'à la fin, et on a travaillé sur... La chanson La Prière, on a travaillé sur les musiques de cornemuse dans le village, les tambours, les musiciens qui jouent. Ça, c'est toute la musique, la partie diégétique de la musique. Et après, l'extra-diégétique est venue bien sûr beaucoup plus tard, après tournage. Alma Viva, c'est un projet du début jusqu'à la fin où l'intervention du compositeur était... où la collaboration était très très proche depuis le début.
Alors, il y a ce personnage principal de cette jeune fille. Est-ce que le rôle de la musique était justement de jouer avec cette musique éthérée, comme ça, aérienne? Est-ce que l'idée était que la musique joue, représente cette part invisible de cette sorcellerie?
Tout à fait. On a même nommé cette part invisible. On parlait de marche funèbre au départ. Après, on a parlé du thème des esprits. Enfin, on essayait donc de qualifier, en tout cas, et de trouver surtout les instruments qui pourraient incarner l'invisible, ceux qui pourraient incarner la part plus sombre de la sorcellerie, c'est-à-dire les sorts, les mauvais sorts. Et il fallait donc distribuer des rôles. Pour moi, c'était la première fois que je travaillais avec un compositeur sur mes films. Et j'ai vraiment apprécié justement ce moment où je t'ai vu entrer en création et où il était question de faire un casting aussi des instruments d'une certaine façon et de distribuer des rôles. La musique s'est faite dans différentes couches. J'ai transmis d'abord à Amine toute la connaissance du terrain. Tu as écouté en tout cas des musiques traditionnelles, des chants de vieilles dames, des musiques même qui se chantent, enfin des comptines en fait, qui se chantent que dans les villages. Je te fais écouter aussi des instruments assez particuliers, très folkloriques de certaines régions, notamment la cornemuse, des tambours, des types de tambours, etc. Le point de départ de nos discussions, c'était de se dire que, ok, il y a ce folklore, il y a cet ancrage dans cette communauté, dans ces traditions, et en même temps, on est vraiment en train de faire complètement une fiction pour le cinéma, un film d'aventure, un western même, ça fait partie des références. Et donc, je voulais absolument une musique de cinéma et que du coup, ça devienne universel et de ne pas tomber justement trop dans le pittoresque. Donc, c'était un point de départ pour ensuite s'en détacher, faire un pas de côté. Et c'est là où ça a été très enrichissant. J'étais aussi assez attachée à l'aspect un peu globe-trotteur d'Amine, je ne sais pas comment dire. Tu avais des instruments qui venaient du monde entier. J'avais l'impression que du coup, tu avais une richesse culturelle aussi, musicale, de par ton parcours, de par ton histoire, qu'on a aussi mis au service du film.
La musique de plateau, c'était très très préparé aussi par Christelle, parce qu'elle avait des références très très précises. Et après, il fallait vraiment trouver, on a cherché à créer des sons à partir d'instruments acoustiques, mais qui étaient joués d'une manière très différente, enfin, qui étaient quelque part sortis de leur zone de confort en fait. La guitare portugaise qu'on a beaucoup utilisée, mais qui n'a jamais été utilisée comme on l'utilise traditionnellement. Donc elle a été beaucoup jouée à l'archet, avec d'autres guitares à l'archet aussi. Et les tambours, je pense que c'était aussi la question du film de genre, c'est aussi beaucoup posé. Comment est-ce que on pourrait insuffler l'idée du mystique, l'idée du fantastique, sans... rentrer dans les codes du genre, et tout en retenue, et aussi comment tisser la relation entre Salomé et l'esprit de sa grand-mère.
D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait un motif sur la grand-mère qui se retrouvait ensuite sur la fille, comme pour marquer la passation.
Exactement, c'est le motif de la grand-mère qui revient à chaque fois que l'esprit de la grand-mère est présent, avec les trois flûtes et avec l'orgue de glace, avec toutes les guitares jouées à l'archet.
Le glace harmonica, c'est comme une onde, ça va très très bien avec la sorcellerie justement.
Tout à fait, c'est un instrument qui est historiquement a été utilisé pour des séances d'hypnose, c'est un instrument qui a une part de mystique forte, c'était l'instrument qui va aller utiliser quelque part donc, pour le film.
Alors il y a la part invisible que l'on vient d'évoquer, mais il y a aussi la part visible, la géographie du film. C'est une nouvelle géographie pour vous, Amine Bouafa, après le Mali, après la Tunisie, le Portugal. Comment vous êtes mis vraiment dans ce pays, musicalement parlant
Christelle avait fait un grand travail de recherche en me faisant écouter tous les chants, les vieux chants, les vieilles cantines, les musiques de tambour. Les tambours, il y avait beaucoup de rythmes qui avaient un caractère de marche funèbre, qui avait un caractère un peu mystique de danse funèbre, d'évocation des esprits. La cornemuse portugaise, on a beaucoup aussi écouté certains groupes ou certaines chanteuses aussi. Il y avait beaucoup un travail de documentation musicale et dont je me suis quelque part inspiré aussi pour la suite.
Alors le film s'appelle Alma Viva et il y a le Alma Viva Band, donc vous avez vraiment créé un groupe avec le film. Ce sont les musiciens que l'on voit dans l'image, jouer dans l'image.
Un groupe créé pour le film. On a décidé ensemble de mettre ce groupe à l'image parce qu'effectivement, tu l'as rappelé tout à l'heure, j'avais oublié ce moment-là, mais ça arrivait assez tardivement dans le moment de préparation. C'était pas au scénario et quand j'ai commencé à préparer le film, je me suis dit, mais tiens, et si les musiciens étaient vraiment à l'écran et que la musique était vraiment jouée en direct et qu'on pouvait du coup établir un glissement entre le réel et la fiction. Et donc on voit les musiciens jouer, puis on les quitte et on rentre vraiment dans le score. Enfin, j'aimais bien ce glissement-là. Et donc on a choisi ensemble les instruments qui allaient être mis sur le plateau. Et on a composé ce groupe qu'on a appelé ensuite au générique le Alma Viva Band, parce qu'on trouvait que c'était une bonne façon de les nommer. On a fait construire, en fait, fabriquer une cornemuse qu'on a fait, parce que c'est des cornemuses typiques de cette région qui n'ont pas le même nombre, je crois, de d'entrées d'air. Enfin, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une cornemuse vraiment de Mirandela qu'on a fait fabriquer pour le film, que Amine a reçu chez lui dans son studio.
J'ai samplé cette cornemuse pour pouvoir créer toutes les maquettes avec la vraie cornemuse de la région du nord du Portugal, là où le film a été tourné, en fait. Ça faisait partie de tout le travail d'écriture pré-tournage qu'on a fait ensemble.
Et dans le processus de composition, tout était écrit avant le tournage et c'est votre partition qui est jouée à l'image ?
Oui, tout à fait. Là, c'était vraiment les musiciens avec qui on a travaillé en amont et qui ont joué dans le film et qui sont devenus quelque part personnages dans le film, en fait. Et qui jouent à chaque fois dans les fêtes. C'est quelque part une mise en abyme musicale dans le film.
C'est intéressant, et vous avez donc parachevé ensuite la partition au montage avec l'orchestre et notamment du lyrisme qui magnifie les paysages, notamment ce plan aérien final.
Ah oui, ce plan aérien final, c'est Amine qui a eu l'idée donc d'introduire l'harmonica de verre, donc glace harmonica pour ce final sur le thème, en fait, sur la même rythmique que la prière de Saint-Georges que chante la petite fille. Donc il y a ce thème qui revient. C'était extraordinaire. Le film, il est chargé de croyances ésotériques et de ce surnaturel-là. On a beaucoup parlé du mystère. On passe pas dans le fantastique complètement, mais on reste dans quelque chose de mystérieux à hauteur de petite fille qui, justement, croit être en contact avec des esprits. Mais le film reste aussi ouvert à une autre interprétation. Le surgissement par exemple de l'incendie dans le film ou de la pluie miraculeuse à la fin, ça peut être tout à fait réel, ordinaire en fait, mais elle y voit quelque chose d'extraordinaire, elle y voit un signe de sa grand-mère qui se manifeste à travers les éléments. Mais il fallait aussi que la musique soit chargée de ça, sans trop appuyer. Si on tombait dans le fantastique très vite, les tentatives qu'on a pu avoir, si on tombait trop dans les codes du film de genre, on était tout de suite dans un film de terreur. C'est une petite fille qui est possédée par un esprit qu'elle aime, en fait. C'est là la différence avec les thèmes, en tout cas les thèmes, les récits fantastiques qu'on peut voir dans des films. Souvent, les gens sont possédés par des esprits méchants. Et là, c'est sa grand-mère adorée, donc il fallait que la musique soit en même temps assez douce et mystérieuse. Donc c'était un grand défi. Les discussions étaient longues et profondes parce que c'était un défi, vraiment, de ce dosage-là.
Aller complètement inventer une tonalité propre au film, une tonalité de mystère à hauteur de petite fille, une tonalité ésotérique à hauteur de petite fille, une tonalité de conte, mais pas de conte fantastique.
Oui, il a fallu vraiment faire preuve presque d'humilité, de se mettre à hauteur du film en fait, et on sentait bien que quand on surplombait, quand on surenchérissait en fait, de façon trop volontaire, pour appuyer des émotions, parce que bah, souvent à l'étape de la musique, c'est souvent pour combler aussi parfois des manques. On se dit, à tel moment, l'émotion du personnage doit être soulignée, donc on a tendance à vouloir en faire trop. Et dès qu'on le curseur était mis trop haut, on sentait que le film ne l'acceptait pas, il le rejetait. Et ça ne fonctionnait pas, c'est organiquement parlant, on le sentait, ça sonnait faux. Et donc c'est vraiment le film aussi, de par sa nature, de par son identité qui est très singulière, parce qu'il bride en fait. Un film naturaliste et en même temps magique, fantastique et en même temps trop documentaire. Enfin bon, il fallait trouver un équilibre et que les deux existent, le naturalisme et la fiction. Enfin, en tout cas, la musique apporte cette dimension plus cinématographique. Il fallait que ça se mette, voilà, ça s'ajuste.
Bien, merci Christelle Alves-Mera, Amine Bouafa. Alma Viva, présentée à Cannes à la Semaine de la Critique.
Merci.
Au revoir.